Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici la plus incroyable des aventures humaines de tous les temps. L'histoire des survivants de la cordillère des Andes. En 1972, leur avion s'écrase dans la montagne. Ils survivent 2 mois et demi en mangeant les cadavres. Une histoire que je tire du livre de l'un des survivants, Nando Parado, « Miracle dans les Andes », que vous trouverez au livre de poche. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le jeudi 12 octobre 1972, un avion décolle de Montevideo, la capitale de l'Uruguay, en direction de Santiago du Chili. C'est un avion militaire, un Fairchild FH-227. Il appartient aux forces armées uruguayennes. Et entre nous, c'est le pire des avions de la Terre. Oh là là, un cul de plomb, comme on dit. Tellement lourd qu'il a toujours du mal à décoller. Aujourd'hui, ce ne sont pas des militaires qu'ils transportent. C'est une équipe de rugby qui a affrété cet avion. Des rugbymen vétérans uruguayens, les All Christians, qui vont disputer un tournoi au Chili. Ils ont eu le droit d'emmener quelques-uns de leurs proches. 45 passagers en tout. Parmi eux, laissez-moi vous présenter tout de suite l'un des héros de cette histoire. Fernando Parado, que tout le monde appelle Nando. C'est l'un des joueurs de l'équipe de rugby et il a emmené avec lui sa maman, Eugenia, et sa sœur Susana. Normalement, ils seront à Santiago du Chili ce soir. Mais assez vite, l'avion rencontre un problème météo.
Vol 571, déroutez-vous sur Mendoza, Mendoza.
Le Fairchild se pose donc à Mendoza, en Argentine. Un contretemps, rien de grave. Tout le monde descend et va pour une nuit à Mendoza. L'avion redécolle le lendemain matin. Il reste juste à traverser la cordillère des Andes. Et derrière se trouve Santiago du Chili. Le pilote, Julio Ferraras, sait très bien que passer la muraille des Andes, c'est délicat. C'est un militaire. Il a 2900 heures de vol à son actif. Il sait qu'au-dessus des Andes, se nichent des tempêtes très violentes, avec des vents redoutables et des masses nuageuses très compactes. C'est pour ça que sur son plan de vol, il a prévu de contourner les Andes. Il va d'abord descendre vers le sud en longeant les montagnes d'Argentine, et puis virer à droite à la hauteur du col du Planchon pour entrer dans l'espace aérien chilien. Et ensuite, il remontera vers le nord, toujours en suivant les montagnes côté chilien, jusqu'à Santiago du Chili. Mais quand l'avion s'engage vers le sud en longeant la cordillère, il entre tout de suite dans une épaisse couche de nuages. Et les avions à l'époque n'ont pas les équipements d'aujourd'hui. Et il vire à droite beaucoup trop tôt, bien avant le col du Planchon. Et il va droit vers la montagne, vers la cordillère des Andes, vers le plus dangereux des massifs montagneux du globe. Et avec son cul de plomb, il ne peut pas passer. Mais pour l'instant, il n'en sait rien. Lui et son copilote n'ont pas réalisé, et les passagers non plus d'ailleurs. Dans la cabine, ça rigole, ça discute, il y en a même qui s'envoient un ballon de rugby d'un bout à l'autre de l'avion. Et puis d'un coup, il y a des turbulences. Et là, par le hublot, les passagers voient la cordillère, très proche, trop proche, beaucoup trop proche.
On va se crasher, putain ! On va se crasher !
Et dans le poste de pilotage, Julio Ferraras tire sur le manche comme un soudard.
Mets les gaz, putain ! Mets les gaz !
L'avion fait un boucan d'enfer. Il ne passera pas ! Il est trop lourd ! Le cul de plomb ! L'aile droite de l'avion est la première à heurter la montagne, dans un fracas indescriptible. Et ensuite, c'est la queue qui heurte un rocher et qui se détache. Elle emporte avec elle les passagers des sièges arrière, happés dans le vide, avalés par la montagne. Et l'avant de l'appareil, lui, s'abat sur la neige. Et il se met à dévaler la pente, comme une luge devenue folle. Nando Parado écrit. Ma mère et ma sœur se sont retournées vers moi. Un air glacial m'a balayé le visage. Les nuages s'engouffraient dans la travée centrale. Je n'ai pas eu le temps de comprendre, de prier ou de ressentir de la peur. J'ai été arraché à mon siège par une force incroyable et projeté vers l'avant, dans l'obscurité et le silence absolu. La partie avant de l'avion glisse dans la neige pendant 1,5 km. Et elle s'arrête, le nez en l'air. Il est 15h32. Et c'est le début de l'une des plus grandes aventures humaines de tous les temps. Personne ne répond. Et pourtant, dans la carlingue, il y a des survivants. Certains ont détaché leur ceinture. Ils sont là, debout, hagards. Ils tournent la tête. Il manque tout l'arrière de l'avion et tous les passagers qui étaient assis au fond. Et autour d'eux, il y en a qui gênent, il y en a qui hurlent, et il y en a d'autres qui ne bougent pas, puisqu'ils sont morts. Les survivants se comptent. Ils sont 33. 33 sur 45 passagers et membres d'équipage. C'est un miracle! Dans le poste de pilotage, le pilote est mort sur le coup. Et le copilote est gravement blessé. Il est incarcéré dans la cabine. Il souffre tellement qu'il demande qu'on lui apporte un revolver pour en finir.
S'il vous plaît! S'il vous plaît!
Et puis, mais à ce moment où les survivants qui peuvent marcher sortent de l'avion. Pas besoin de passer la porte, hein, tout l'arrière donne sur la neige directement. Où sont-ils? En Argentine? Au Chili? Ils n'en ont pas la moindre idée. À quelle altitude? Ils ne le savent pas non plus, très haut sans doute. On voit les glaciers tout près. 4000? 5000 mètres? 3000? En tout cas, il fait un froid de queue. La cabine de l'avion est le seul refuge possible. Mais il faudrait fermer le trou.
Je pense que le mieux, ça serait de monter un mur de neige.
Mais avant ça, il faut sortir les morts. Dans la cabine, il y en a 3. Tous les autres ont été emportés avec la queue. Les survivants les détachent de leur siège et ils vont les poser dehors, dans la neige. Et parmi ces corps encore tièdes, se trouve Reina, la maman de Nando Parado. Et Nando? Nando, il est dans un sale état. Il ne bouge pas, il est inconscient, probablement dans le coma. Et sa sœur Susanna est grièvement blessée, elle aussi. Les survivants passent leur première nuit blottis les uns contre les autres, parmi les blessés qui râlent et qui gênent. Quand le soleil se lève le lendemain matin, tout le monde a faim, bien sûr. Et un constat s'impose. Il n'y a aucune réserve de nourriture dans la carlingue de cet avion. Si, il y a quelques chocolats et quelques bouteilles d'alcool, mais ça n'ira pas bien loin. Carlito, l'un des jeunes rugbymen, est élu à l'unanimité chef du stock de nourriture et de boissons. À partir de maintenant, c'est lui qui rationne et qui distribue. Un peu plus tard dans la matinée,
regardez! Regardez un avion!
Ils lui font de grands signes, bien sûr. Mais l'avion ne les a pas vus. Dans l'après-midi, les survivants ne sont plus que 28. 5 blessés viennent de mourir, dont le pauvre Nando Parado. Comme les autres, on le sort de l'avion et on va le poser dans le froid, à côté des autres cadavres. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire que je serais bien en peine de vous expliquer. Nando, que tout le monde croyait mort, se réveille. Il a ressuscité. C'est un miracle. Juste terni par ce moment où il faut bien lui dire que sa maman est morte et que sa sœur Susanna est grièvement blessée. Susanna qu'il va veiller pendant 2 jours et qui finalement meurt dans ses bras et qu'il va déposer avec les autres sur le tas de corps dans la neige, leur cercueil de glace. Ce matin, ça fait 10 jours qu'ils sont là. Depuis le début, ils peuvent écouter la radio. Pas appeler, mais écouter.
Après 10 jours de recherche qui n'ont rien donné, les autorités argentines et chiliennes ont pris la décision aujourd'hui de cesser les opérations.
Ça leur fiche un gros coup au moral. D'autant que maintenant, il faut être lucide. Ils n'ont rien à manger.
Les mecs, on est foutus. On a encore un chocolat chacun, et après plus rien. On fait comment maintenant?
Depuis 2 jours, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de manger le cuir des valises, mais le cuir est traité, c'est immangeable. D'autres ont essayé de manger la mousse des sièges, mais ils ont toujours aussi faim. C'est à ce moment-là que Nando Parado se penche vers Carlito.
Je vais manger le pilote. J'ai décidé de manger le pilote. C'est ça ou mourir de faim.
Carlito va voir les autres.
Nando est devenu complètement fou. Il veut manger le pilote. Il n'est pas fou. Nous aussi, on a eu la même idée. On n'a pas le choix, Carlito. On n'a pas le choix.
Carlito s'aperçoit qu'ils sont 4 ou 5 à avoir eu la même idée que Nando Parado. Manger les cadavres. Alors, avec pour couteau les débris des hublots et avec une hache retrouvée dans l'avion, les voilà qui se mettent à découper un cadavre, celui du pilote qui les a mis dans cette galère. C'est toujours plus facile que de manger un ami. Quand ils sont revenus, ils avaient des petits morceaux de chair dans les mains. Gustavo m'en a tendu un. Je l'ai pris. La chair était d'un blanc grisâtre, dur comme un morceau de bois, et très froide. Je me suis forcé à penser que ça n'était plus une partie d'un être humain, que l'âme de cette personne avait quitté son corps. Pourtant, il m'a fallu du temps pour amener la viande jusqu'à ma bouche. J'évitais le regard des autres. Mais je les voyais, du coin de l'œil. Ils essayaient de rassembler leur courage pour la manger. D'autres mâchaient d'un air forcé. Et j'ai fini par trouver le courage de mettre la viande dans ma bouche. Elle n'avait aucun goût. J'ai mâché 1 ou 2 fois avant de me forcer à avaler. Je ne ressentais ni honte, ni culpabilité. Je faisais simplement ce qui s'imposait pour survivre. Je comprenais l'ampleur du tabou que nous venions de briser. Mais la seule émotion forte que j'ai éprouvée à ce moment-là, c'était du ressentiment contre le destin qui nous avait contraints de choisir entre cette horreur-ci et l'horreur d'une mort certaine. Dix jours après l'accident, les survivants ont brisé le tabou ultime de l'humanité. Ils ont mangé de la chair humaine. Et ils ne l'ont pas fait par cruauté ni par barbarie. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et quand le corps du pilote sera réduit à l'état de squelette, eh bien ils feront pareil avec les autres. Ça fait 18 jours qu'ils sont là, prisonniers de la montagne. Et ça fait 4 jours qu'il neige à gros flocons, en continu. Sortir de la cabine est devenu impossible. Et soudain, en pleine nuit, ils sont réveillés par un bruit gigantesque, comme un énorme craquement qui vient de la montagne, une avalanche. Une avalanche qui est en train de fondre sur eux. Ils ont à peine le temps de réaliser, la cabine reçoit une secousse phénoménale qui projette la carlingue à plusieurs dizaines de mètres et qui vient la recouvrir entièrement. Ils sont maintenant prisonniers sous la neige. Quelque chose de mouillé et de glacé se pressait contre mon visage et un poids écrasant m'était tombé dessus qui avait vidé ma poitrine de tout l'oxygène. Voilà. Je suis mort, me suis-je dit. Maintenant, je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. En pénétrant dans la cabine, la neige a fait 8 morts de plus. Maintenant, ils ne sont plus que 18. Et bientôt, ils n'auront plus d'air. La bulle d'air sous la neige ne durera pas une éternité. Et c'est là que Nando a une idée. Il repère une tige métallique. Il se met à creuser une sorte de cheminée jusqu'à l'air libre. Et ça marche. Ça marche. Et au bout de 3 jours en autarcie, Nando parvient à creuser un tunnel. Et il sort à l'air libre. Dehors, c'est toujours l'enfer. Il souffle un vent glacial et il neige en continu. Et puis, le temps se calme. La neige fond un peu. Et le fuselage de l'avion apparaît à nouveau dans la poudreuse. Sauf qu'avec la neige qui fond, l'avion se met à bouger. Pourvu qu'il ne tombe pas dans la crevasse qui est en dessous. Ça fait 3 semaines maintenant qu'ils sont là.
Bon, moi je propose qu'on aille maintenant chercher la queue de l'avion. Dedans, il y a peut-être des batteries. Avec, on pourra peut-être faire fonctionner la radio du cockpit. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est à ce moment-là que Nando Parado devient le vrai chef de la troupe. Il pense que la queue de l'appareil est à 2 kilomètres, juste au-dessus. Alors il répartit le travail.
Bon, toi, vous vous débrouillez pour fabriquer des outils, d'accord? Il nous faudrait quelque chose qui ressemble à un tournevis et aussi quelque chose qui ressemble à une pince.
D'autres fabriquent des raquettes pour marcher dans la neige avec les coussins en mousse des sièges. Et Nando prend la tête de cette première expédition loin de l'avion. Et assez vite, ils tombent sur la queue de l'avion. Pour une fois, ils ont eu de la chance. Et dedans, ils trouvent un appareil photo, une boîte de chocolat et surtout des batteries 24 volts. Roy, l'un des survivants qui s'y connaît un peu en électronique, se met en tête de connecter la radio du cockpit aux batteries. On entend des grésillements, ça soulève beaucoup d'espoir, et puis plus rien, ça n'a pas marché. Avec l'appareil photo, Nando se met à prendre des clichés de la vie quotidienne autour de l'épave. Dans sa tête, ça n'est pas pour avoir des souvenirs, hein. Dans sa tête, ils vont tous mourir. Il veut juste laisser la preuve que des hommes ont survécu ici. Et je vous invite à aller voir ces photos sur Internet, elles sont irréelles. On voudrait voir la terreur sur leur visage. On ne la voit pas. Ils sont souriants. Numa vient de mourir. C'était le plus jeune de l'équipe, il était très faible. Très maigre. Et Raphaël est mort aussi. Depuis l'accident, il se battait avec une mauvaise blessure. Il est mort de gangrène. Et vous savez ce qu'ils ont dit tous les deux, avant de mourir?
Je vous donne l'autorisation de me manger.
Nous sommes le 11 décembre. Demain, ça fera 2 mois qu'ils sont là. Et ils ne sont plus que 16. Et Nando a une idée, un projet. Il veut aller chercher du secours à pied, à travers la montagne. Et il veut convaincre Roberto de partir avec lui.
Enfin, Nando, comment tu peux avoir une idée pareille? Enfin, c'est infaisable. On va mourir. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? De toute façon, on va tous mourir ici. Mais les secours vont arriver. Roberto, ça ne sont pas des secours qui nous cherchent.
Ce sont des croque-morts. Ils vont mettre des mois à nous retrouver. Ils pensent qu'on est tous morts. Ce qui motive Nando, à ce moment-là, c'est que, dans le garde-manger, on en sera bientôt arrivé à manger sa mère et sa sœur. Il veut partir plutôt que d'affronter ça. Partir. Mais partir par où? De quel côté? Par l'Est? Vers l'Argentine? Ou par l'Ouest? Vers le Chili? De quel côté est-ce qu'on est le plus près de la civilisation? Nando a une certitude.
Moi, je pense que le Chili est beaucoup plus proche. On va partir à l'Ouest, même si à l'Ouest, il y a une grosse montagne qu'il faudra gravir.
Je vous le glisse comme ça. Mais Nando n'a pas fait le bon choix. Car à l'Est, à 27 kilomètres seulement, il y a un hôtel dans la montagne. Mais bon, il fallait bien choisir. Ils ont choisi de partir dans l'autre sens. C'est décidé. C'est aujourd'hui qu'ils partent. La météo est bonne, le soleil brille, c'est maintenant ou jamais. Ils partent à trois. Nando Parado, son copain Roberto Canessa et Antonio Vizintin, que toute la bande appelle Tintin. Ils se sont fabriqués un seul grand sac de couchage pour trois. Ils ont enfilé plusieurs couches de vêtements, ils ont pris de l'eau et de l'alcool, et bien sûr un peu de nourriture. Pas besoin de vous faire un dessin, il n'y a rien d'autre. Le départ est déchirant. Ils se serrent longuement dans les bras, ils se promettent de se revoir vivants. Et Nando fait une dernière déclaration à ceux qui restent.
Mes amis, nous partons. Mais je suis sûr que nous nous reverrons bientôt, vous savez. Naturellement, si nécessaire, je vous autorise à manger ma mère et ma sœur.
Et dans l'immédiat, il faut grimper, escalader un col. Ils ne le savent pas, mais ce col est à 4400 mètres d'altitude. Et donc l'air se raréfie. Ils s'essoufflent. Ils ont la tête qui tourne. Ils doivent s'arrêter souvent. Le soir, ils dorment dans une brèche, blottis à trois, dans leur grand sac de couchage. Et ils font tourner la bouteille de gnôle pour se donner du courage. En montagne, c'est toujours pareil. On croit être arrivé au sommet, et puis il y a toujours un sommet plus haut, derrière. Antonio Vizintin est épuisé.
J'arrête. J'arrête, je suis au bout. Je vais faire demi-tour. Désolé les gars. Continuez sans moi.
Nando et Roberto continuent donc tout seuls. Je suis incapable de dire comment on a fait pour continuer. Je frissonnais de froid et de fatigue, sans pouvoir m'arrêter. Mon corps était au bord de l'anéantissement. Et puis au-dessus de moi, j'ai vu la silhouette d'une arête clairement découpée dans le ciel bleu. Il n'y avait plus de montagne derrière. Le sommet. Mais quand je me suis hissé sur le bord de cette arête, j'ai aperçu la montagne qui s'élevait à nouveau. C'était encore un piège de la montagne. C'était un faux sommet. Ça n'est pas le courage qui les fait avancer. C'est la peur. La peur de mourir, ici et maintenant, dans ce désert glacé. Ils marchent comme ça pendant 10 jours, jusqu'à atteindre la limite de la neige. La terre! La terre! La terre, mais personne alentour! Avec une conséquence sordide, il fait plus chaud, et donc la viande congelée qu'ils transportent se met à pourrir instantanément, au point que Roberto attrape la dysenterie. Mais qu'importe, il marche encore.
Regarde là, j'ai l'impression qu'il y a des détritus.
jamais des poubelles n'ont annoncé une si bonne nouvelle. Même s'ils n'y croient pas.
Si ça se trouve, ils ont été jetés d'un avion.
Arrête, Nando. Dans les avions, les hublots s'ouvrent pas. Et puis d'un coup, la végétation devient plus dense et ils aperçoivent une vache. Nous avions tous les deux très faim. Et pendant un moment, nous avons envisagé de tuer la bête. Mais Roberto m'a fait remarquer que cela n'encouragerait certainement pas le propriétaire à nous venir en aide. Au 70e jour, il s'endorme au bord d'une rivière. Et quand il se réveille, sur la rive en face, il y a un homme à cheval, un homme. Ils sont sauvés. Mais le courant de la rivière est trop fort. Impossible de le traverser. Le cavalier leur envoie alors du papier et un crayon attaché à une pierre. Nando écrit « Je viens d'un avion qui est tombé dans la montagne. Nous avons marché 10 jours. Dans l'avion, il y a 14 personnes en mauvaise santé. Il faut les évacuer au plus vite. Nous n'avons rien à manger, nous sommes faibles. Je vous en prie, nous ne pouvons plus marcher. » Et il renvoie le bout de papier attaché à la pierre de l'autre côté de la rivière. Et il voit l'homme monter sur son cheval et disparaître au galop. Ils sont sauvés, mais il faut attendre encore. Et l'attente dure 10 heures, jusqu'à ce que Nando et Roberto voient arriver au loin des cavaliers de la garde montée chilienne. Et derrière, des journalistes, une horde de journalistes. Car figurez-vous qu'à ce moment-là, la nouvelle a déjà été annoncée à la radio. Et d'ailleurs, dans l'avion là-haut, les survivants sont déjà au courant. Les journalistes, bien sûr, les assomment de questions.
Por favor, cuando son arriba, me puede decir que han comido durante estos meses?
Ils veulent savoir combien il y a de survivants, ce qu'ils ont mangé. Nando et Roberto, évidemment, n'ont pas prévu de répondre si vite à cette question.
Eso no lo podemos decir.
Ça, on ne peut pas le dire. L'urgence maintenant, c'est d'aller chercher les autres. Alors on leur tend une carte, Nando indique le lieu du crash, et c'est en hélicoptère que Nando remonte vers les sommets. Mes craintes se sont évanouies au moment où j'ai vu de minuscules silhouettes sortir du fuselage. J'ai reconnu Gustavo à sa casquette de pilote, et Daniel, et Pedro, et Fito, et Javier. D'autres couraient en gesticulant. J'ai essayé de les compter, mais les soubresauts de l'hélicoptère rendaient la tâche impossible. Les retrouvailles sont bouleversantes. Ils ont survécu, et c'est incroyable. Et le récit de cette expérience humaine unique fait immédiatement le tour du monde. Entaché par un mot sur lequel il va falloir qu'il s'explique et s'explique encore. Le mot cannibalisme. Car finalement, les autres, ceux d'en bas, ceux de la vallée, ne vont retenir que ça. Ils ont mangé de la chair humaine. Au point qu'il faudra que le pape Paul VI vienne dire
« Ils n'ont pas commis de péché ».
Dans les Andes, nous vivions un battement de cœur après l'autre. Chaque seconde de vie était un miracle. Je me suis efforcé de vivre ainsi depuis, et je vous engage à faire de même. Comme nous disions dans les montagnes, respire, respire encore. À chaque fois que tu respires, tu es vivant. C'est encore le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne gâchez pas la moindre respiration. J'ai tiré ce récit du livre de Nando Parado, Miracle dans les Andes, au livre de poche.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.